Et maintenant, on va prouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40.
Ho, 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 Merry Christmas.
Jessie Magana, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes l'autrice avec Laure Flavigny, on la cite tout de suite, des textes de l'Atlas des mythes et légendes du monde. C'est un ouvrage accessible dès 10 ans qui a été publié au mois de novembre chez Actes Sud, Actes Sud Jeunesse. On dit que c'est pas votre première collaboration avec cette maison d'édition qui a déjà eu des atlas en fait avant celui-ci.
Oui, en effet, c'est le troisième atlas. Le premier s'appelait « Comment va le monde ?». C'était un atlas autour des questions géopolitiques, géographiques. Le deuxième s'appelait « D'où vient la France ?». C'était un atlas historique. Et donc là, le troisième, autour des mythes et légendes du monde.
On présente l'équipe autour de vous pour créer ce livre. Vous n'êtes pas seule. Il y a une autre autrice et puis plusieurs illustrateurs, donc plusieurs regards sur ce thème-là.
Oui, c'est à chaque fois une grosse équipe à monter. Pour chaque atlas, c'est celui-ci en particulier, puisqu'on a fait appel à 3 personnes pour l'illustration. Donc Laure Flavigny et moi, nous sommes les 2 autrices des textes et conceptrices des cartes. Ensuite, il y a Aurélie Boissière, qui est cartographe. C'est elle qui va mettre en scène dans chaque carte les différents personnages, les différents thèmes qu'on va mettre en valeur. Et ensuite, 3 personnes à l'illustration, donc Kevin de Neuchâtel, Martha Orzel et Johanna Jezak. Pourquoi 3 personnes plutôt qu'une ? C'est un travail de titan, de titanide même, pour dire au féminin. L'illustration dans ces atlas, puisque chaque page présente vraiment un foisonnement d'illustrations, et on voulait aller un petit peu plus vite que sur les atlas précédents où on avait eu 3 ans de travail. Cette fois, on a 2 ans de travail et donc 3 personnes qui ont pu travailler en même temps sur différentes pages pour pouvoir les illustrer.
Le livre dont on parle, donc c'est une 50aine de pages, un très grand format. Là, vous l'avez à portée de main. Je ne sais pas combien il mesure.
C'est pratiquement un format A3.
Ouais, vraiment un grand livre. Il a fallu, vous le dites, 2 ans de travail pour explorer 130 cultures du monde entier. On s'y prend comment pour se documenter sur autant de cultures ?
Alors déjà, on est passionnés, Laure Flavigny et moi, d'histoire et de mythologie. Donc on avait quelques connaissances de base, mais essentiellement sur les mythologies les plus connues. Hein. Bon, la mythologie grecque et latine, un peu de mythologie sud-américaine, un peu de mythologie nordique. Donc il nous a fallu effectivement nous documenter, travailler à partir d'encyclopédies, de dictionnaires qui ont été produits par des chercheurs. Ensuite, il a fallu, une fois qu'on a trouvé... ces différents thèmes, les décliner sur 130 cultures, parce qu'on avait vraiment à cœur effectivement de pouvoir élargir au maximum et de montrer comment beaucoup de thèmes se retrouvent dans beaucoup de cultures du monde. Donc beaucoup de recherches partout sur Internet, beaucoup d'interrogations aussi de spécialistes. Et puis l'une l'autre, on se relie, on se complète. Donc ça nous a permis vraiment d'élargir au maximum les recherches.
On le dit tout de suite, donc cet atlas des mythes et légendes du monde, il comprend 23 doubles pages pour autant de cartes et on le comprend dès la première de couverture. Ce sont des cartes qui ne sont pas toujours créées avec le point de vue habituel.
Oui, effectivement, en fonction de la thématique utilisée et également des personnages ou des continents ou des civilisations, des cultures qu'on voulait mettre en avant, on n'a pas tout le temps une carte centrée sur l'Europe comme on les a souvent dans les atlas. On va avoir des cartes, par exemple, qui sont vues avec le monde vu du dessus pour montrer ce qui se passe sur les pôles. On va avoir également des infographies. C'est pas tout le temps des cartes. C'est un petit peu la nouveauté de cet atlas. Certaines thématiques nous paraissaient intéressantes à déployer sur un format davantage de parcours. Donc on a vraiment une variété, chaque page a déjà une couleur spécifique, un univers très particulier. Hein. Si on prend l'univers des sorcières par exemple, c'est un univers avec plein de toiles d'araignées, des monstres un peu partout, des couleurs un peu inquiétantes. Et puis à côté de ça, la carte des créatures fantastiques, on va avoir une carte couleur bonbon, arc-en-ciel. Donc chaque carte a vraiment son univers particulier, sa représentation particulière pour avoir une adéquation parfaite entre la forme et le fond.
Sur la question des cartes, il y avait vraiment un souhait fort de sortir donc d'une vision du point de vue occidental sur le sujet des mythes et légendes. On va rencontrer dans les pages de ce livre de nombreuses cultures. On part chez les peuples aborigènes, chinois, grecs, indiens ou encore inuits, japonais et plein d'autres. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'il y a des ponts entre toutes ces cultures. Il y a une dimension vraiment universelle des mythes et légendes. Qu'est-ce que ça dit de nous, êtres humains ? Finalement, on a souvent les mêmes préoccupations.
Bon, on se pose tous les mêmes questions. D'où on vient ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Voilà, toutes ces questions-là, l'humanité, elle se les pose depuis toujours, je pense. Et donc, depuis toujours, on a inventé des histoires pour essayer de répondre à ces grandes questions. Donc aujourd'hui, on a davantage de connaissances scientifiques qui nous permettent, par exemple, de comprendre que notre univers s'est formé à partir d'une boule très dense qui a explosé et qui a donné le Big Bang. Mais à l'époque de nos ancêtres, on n'avait pas forcément ces connaissances scientifiques. Donc on a imaginé, par exemple, que le monde était créé à partir d'un œuf qui se sépare en deux et qui donne la Terre en bas et le ciel en haut. Donc finalement, on n'est pas très très loin du Big Bang. Donc on voit que dans toutes ces cultures, on s'est posé cette question-là, et notamment cette question de la création du monde, mais plein d'autres. Et c'est vraiment ce qui nous rassemble, parce que ce sont autant de déclinaisons qui montrent à la fois notre commune humanité, mais également la diversité des réponses qui ont pu être formulées.
Sur la période finalement qui est couverte, c'est énorme. Je pense que sur les plus récents, ce serait peut-être jusqu'au 15e siècle avec les Aztèques, où finalement c'est pas si loin de nous. Mais ça remonte jusqu'à quand finalement les mythes et légendes ?
Jusqu'à l'aube de l'humanité, hein. C'est-à-dire que je pense que on a retrouvé des peintures sur les parois des grottes qui nous renvoient très certainement, par exemple, à la déesse mère. Hein. On a ces statues aussi très anciennes qui montrent des femmes très en forme. Donc on peut imaginer très bien que c'était les premières représentations de ce que les Grecs ont appelé Gaïa, c'est-à-dire la créatrice de l'ensemble du monde. Hein. Et d'autres cultures ont également ces déesses mères. Donc
La Pachamama, si on part en Amérique
Exactement,
du Sud.
Tout à fait. Ouais.
Donc, on a déjà évoqué là ce premier sujet qui fait lien d'une culture à l'autre, à savoir le avant la création du monde. On découvre que, par exemple, les aborigènes d'Australie ont cette particularité qu'eux considèrent que le monde est là depuis toujours, de toute éternité, et créé en permanence par des esprits. Et puis, on arrive à cette création du monde où parfois, ça se fait à partir d'un œuf chez les Dogons, les Finnois, les Indiens et les Polynésiens. Et ensuite plusieurs pages sur les dieux et déesses, des êtres supérieurs, invisibles et immortels, qui ont chacun leur domaine et vivent dans des royaumes à part. Je pense que les dieux indiens, égyptiens et gréco-romains sont parmi les plus connus. Là, vous nous en présentez tout un tas d'autres.
Oui, oui, l'idée c'est vraiment de découvrir tous ces... Alors, les enfants connaissent très certainement Thor et Loki, puisque souvent ces dieux ont été réutilisés dans la pop culture, dans le dessin animé, dans également du côté des séries ou des films, avec le côté super-héros Avengers, etc. Donc on a aussi ces divinités-là. Mais ce qui nous a intéressé aussi, c'était de montrer que au-delà des grands royaumes divins, avec les grandes divinités qu'on connaît toutes et tous, Zeus, Athéna chez les Grecs, ou Quetzalcoatl, par exemple, chez les Aztèques, il y a énormément de cultures animistes. Donc les animistes, ce sont des personnes qui considèrent que la nature est peuplée d'esprits. Et ces esprits ont des pouvoirs, ils nous parlent. Je peux citer par exemple Mamiwata, qui est un esprit africain, d'autres esprits également dans les cultures inuites par exemple. Tout ça, ça a été des découvertes aussi pour nous, parce qu'on était plus familières avec d'autres choses, et ça a été peut-être ce qui a été le plus riche finalement, ce foisonnement comme ça de divinités qu'on trouve partout dans la nature.
Quand les esprits habitent le monde, c'est le nom d'un chapitre qui est donc consacré à la question de l'animisme. On y parle aussi de la création des êtres humains et d'animaux sacrés, d'une nature où se cachent les mythes. Et après la création, je pense que finalement la deuxième plus grande question existentielle, parce qu'elle fait peur, c'est celle de la mort. Dans la plupart des cultures, finalement, seuls les corps meurent et les esprits, eux, continuent de vivre sous différentes formes, dans différents espaces. On en dit un mot sur ce chapitre ? Ou finalement, il ne s'agit pas d'une carte, mais plutôt d'une illustration sous forme de parcours, d'ailleurs.
Alors oui, effectivement, la grande question que l'on se pose toutes et tous, c'est qu'est-ce qui nous arrive après la mort ? Donc on a une petite idée de ce qui arrive au corps, mais beaucoup de cultures du monde ont imaginé que nous avions également, plus de notre corps, un esprit ou une âme. Donc dans beaucoup de cultures, on se retrouve avec des défunts qui vont voyager dans un royaume. Alors souvent c'est un royaume souterrain, comme chez les Grecs par exemple, hein, qui s'appelle les Enfers. Chez les Égyptiens également, c'est un royaume souterrain. Et on y rencontre souvent des divinités qui vont juger les actions qui ont été effectuées de notre vivant.
Ce qui va déterminer la suite des événements.
Exactement. Donc, en fonction de ce que l'on a fait de son vivant, soit on va dans un endroit qui est très agréable, comme par exemple les champs d'Yalou chez les Égyptiens, soit on va dans un endroit qui est particulièrement désagréable, comme par exemple, chez les Égyptiens toujours, on se fait dévorer par Amout, qui est une monstresse, un monstre qui dévore les morts. Chez les Grecs, on va dans le Tartare, hein, qui est un peu une préfiguration de l'enfer qu'on peut trouver dans la Bible. Alors chez d'autres cultures un petit peu moins connues, il y a des choses assez amusantes qui se passent. Par exemple, chez les Chinois, vous passez dans un espèce de labyrinthe où vous allez traverser un certain nombre de cours où beaucoup de juges vont être là avec un système de bouliers et donc des comptables qui vont déterminer ce que vous avez fait de votre vivant. Et en fonction, vous allez être réincarné. Si vous avez eu des actions qui sont bonnes, vous allez être réincarné en humain, mais vous pouvez aussi être réincarné en animal ou en végétal en fonction de ce que vous avez fait.
Après un arrêt par les géants et les minuscules, puis les dragons, on arrive aux héros et aux héroïnes, ainsi qu'aux grands récits qui sont liés. Ils sont nombreux à avoir traversé les époques, Héraclès, le roi Arthur, David, etc. Les noms d'héroïnes m'étaient moins familiers, peut-être parce qu'ils ont été, je sais pas moi, effacés, ou en tout cas moins mis en lumière. Là aussi, ça vous tenait à cœur de les réhabiliter un peu ?
Oui, c'est vrai qu'on a tous et toutes en tête les grands récits héroïques, l'Iliade et l'Odyssée, la légende du roi Arthur, et donc ce sont toujours des mythes qui sont, enfin des légendes plutôt, qui mettent en scène plutôt des héros masculins. Donc l'idée de cette page, qui s'appelle « Héros et héroïnes », c'était de mettre en lumière des héroïnes qui sont un petit peu connues quand même des enfants, puisqu'on a par exemple Mulan, merci Disney,
ouais.
Mais également d'autres qui sont peut-être un petit peu moins connues, comme Atalante par exemple, qui a participé à la quête de la Toison d'Or, ou encore...
Chez les Grecs.
Chez les Grecs, tout à fait. Ou encore Judith, qui dans la Bible a tué le général Holoferne lors du siège de sa ville, ou encore Sémiramis, qui est une guerrière et fondatrice de la ville de Babylone, donc chez les Mésopotamiens. Donc on a dû chercher effectivement davantage pour trouver ces héroïnes. Alors je pense qu'elles figuraient dans les mythes, hein, mais elles ont petit à petit été effacées au profit des héros masculins, donc l'idée c'était vraiment de les réhabiliter.
La différence entre mythe et légende, faut quand même peut-être le redire puisque vous venez de faire la distinction.
Alors, la différence, elle est parfois un petit peu ténue puisque un mythe peut donner lieu à une légende. On va dire qu'un mythe est davantage en lien avec la question du religieux, de la spiritualité, des dieux, des déesses ou des animistes. Une légende est davantage en lien avec des héros ou héroïnes qui peuvent être des demi-dieux aussi, mais qui sont souvent des humains. Il y a aussi une question d'antériorité, c'est-à-dire qu'une légende, c'est parfois aussi beaucoup plus récent que les mythes. Mmh. Si je prends l'exemple de la légende du roi Arthur qu'on connaît bien, c'est une légende qui est née au Moyen-Âge, hein, donc c'est beaucoup plus récent effectivement que les mythes mésopotamiens par exemple, qui ont plus de 4000 ans.
On retrouve évidemment le voyage d'Ulysse qui fait l'objet d'un chapitre à part entière dans cet atlas des mythes et légendes du monde. Des mythes et légendes qui parlent aussi souvent de terres disparues à l'image d'Atlantide aux confins du monde grec. C'est le sujet d'une double page. Et puis les trois chapitres suivants sont consacrés aux sorciers et sorcières, aux maléfiques et aux créatures fantastiques. On sort du réel, encore une fois.
Oui, bien sûr, hein, quand on pense au mythe, on pense aux grands récits héroïques, mais aussi et surtout aux créatures. Donc, on a évidemment les dragons, qui sont les incontournables et qui plaisent beaucoup aux enfants. Et c'est assez amusant de voir que partout dans le monde, il y a des dragons, sauf en Afrique. Le dragon est souvent une figure qui garde les sources, qui garde l'eau. Et en Afrique, cette figure-là, elle est remplacée par une créature qui s'appelle la courge dévorante. Donc ces créatures, dragons par exemple, c'était très intéressant de voir qu'en Europe ils sont très maléfiques et puis en Asie ils sont très bénéfiques. Sorciers et sorcières, même chose, hein, c'est toujours intéressant de voir que les mythes, ils proposent jamais une réponse manichéenne, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a beaucoup de personnages qui sont complètement ambigus, hein. Si je file un petit peu l'exemple de la légende arthurienne, Morgane ou Merlin, ce sont des personnages qui sont ni tout blanc ni tout noir, hein. Donc on les retrouve un petit peu comme ça, avec différentes caractéristiques. Et puis il y a quand même des créatures qui sont absolument effrayantes, donc on les a regroupées sous la double page qui s'appelle Les Maléfiques. Donc ce sont les monstres, les plus terrible, qu'on va retrouver par exemple le Kraken, qui est le monstre des abysses nordiques, mais ce peut être également des esprits maléfiques, des sortes de petits démons qu'on a beaucoup dans la culture japonaise, hein, qu'on appelle les yokai, avec des figures qui peuvent être à la fois maléfiques mais un petit peu drôles, hein, comme par exemple la sandale errante. C'est une sandale qui a été oubliée pendant 100 ans, quelque part, dans un placard, et qui, le jour de sa 100e année, se réveille et met beaucoup de bazar dans la maison et empêche tout le monde de dormir. Donc on a trouvé comme ça des créatures complètement incroyables qui sont maléfiques, et puis bien sûr des créatures qui sont bénéfiques et qui font rêver. Alors bien sûr, on pense aux licornes, on pense aux chimères, mais également à des personnages un petit peu moins connus, hein, comme par exemple des genres de yétis, hein, qu'on retrouve un peu partout, mais notamment en Australie, qui s'appelle Yowie. On a également des serpents qui vivent dans les lacs. Alors on connaît bien le monstre du Loch Ness, mais il y en a d'autres, hein, partout dans le monde, hein, des sortes de créatures comme ça qui ressemblent à des dinosaures. Et notamment il y a Mokele Mbembe, qui est une sorte de dinosaure aquatique que l'on retrouve chez les pygmées. Voilà, donc on a toutes ces créatures aussi, qui sont autant de portes d'entrée pour raconter des histoires. Parce que là aussi, la différence principale avec les deux atlas précédents, c'est qu'on a pu véritablement à chaque fois raconter des histoires, raconter par exemple l'histoire de la sirène des dames, qui est une sirène des Pays-Bas.
On a qui inspirera raconter... la petite sirène, voilà. Ouais, ensuite,
tout à fait,
dans le registre des contes.
Ouais. On a pu raconter aussi des histoires incroyables d'animaux, comme notamment Tidalik, qui est une grenouille australienne qui a tellement soif qu'elle a asséché tout le pays. Voilà, toutes ces histoires-là, c'était aussi un pur bonheur que de pouvoir les raconter aux enfants. Alors, on avait... pas la place de tout raconter, sinon le livre aurait fait 2000 pages. Donc c'est aussi une porte d'entrée, cet atlas, qui permet de prendre connaissance de ces personnages, de ces histoires, et puis d'essayer de les découvrir et d'aller encore plus loin.
On comprend que l'atlas des mythes et légendes du monde les raconte, mais dans leur dimension complexe, sans doute plus que ce que l'industrie, notamment du cinéma à travers Disney, l'a fait, on le comprend. L'ouvrage, il se termine sur la dimension bien vivante aujourd'hui de certains mythes et légendes qu'on retrouve dans la culture populaire finalement. On a parlé de dragons, il y a le dragon Yamata no Orochi qui a inspiré des mangas, des jeux vidéo, Méduse aussi, qui peut aujourd'hui connaître une relecture de son histoire à travers la lutte contre les violences faites aux femmes.
Oui, c'était vraiment très important de terminer ce livre en montrant combien les mythes finalement continuent à nous traverser. Ce sont certes des réservoirs d'histoire, des manières de nous faire rêver, mais également des manières de nous interroger sur nos pratiques, sur notre rapport aussi également à la planète, au vivant. On parlait au tout début de Gaïa, de la Pachamama, la déesse mère, mais on peut imaginer aussi que par exemple Yggdrasil, qui est l'arbre de vie chez les Nordiques, qui est une manière de figurer le monde comme ça, avec ses racines qui puisent quelque part et ses branches qui s'élèvent vers le ciel. Tout ça, ça nous questionne, hein, sur comment on voit le monde, comment aussi on envisage son avenir, et comment nos ancêtres nous ont aussi prévenus à quelque part de faire un petit peu attention à comment on agit, hein, sur le monde, puisque le monde peut aussi se rebeller contre nous. Les anciens ont mis en scène les déluges, notamment, pour nous prévenir que...
Des catastrophes.
Voilà, des catastrophes. Et aussi, le mythe du déluge, c'est un mythe qui est un mythe de renouveau de l'humanité. Hein, c'est-à-dire qu'on fait table rase et puis on recommence à partir de zéro, à partir d'un couple d'élus. Donc tous ces mythes, ils sont encore bien vivants aujourd'hui. Ils font vraiment écho dans tout ce qu'on vit. Et c'est assez amusant de voir qu'effectivement, au-delà de la pop culture, ils continuent à nous porter et à nous inciter aussi à agir.
Et sans doute à nourrir aussi nos imaginaires. Jessie Magana, vous êtes donc l'autrice avec Laure Flavigny des textes de cet Atlas des mythes et légendes du monde. Un ouvrage qui a été publié au mois de novembre chez Actes Sud Jeunesse. Il est accessible dès 10 ans. C'est un très grand et très bel ouvrage. Son tarif est de 24,90€. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.